Le business.
Business of bouffe.
Business of bouffe.
C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe.
Business of bouffe.
Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici.
On assume complètement le mot bouffe ici.
Je suis très content de dire bouffe.
Je suis Philibert Chambre, entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre épisode consacré à l'aventure Bao Family. Alors Céline, dans le premier chapitre, on a évoqué tes débuts et la genèse du projet Petit Bao. On va parler maintenant de l'ouverture de ce premier restaurant et du succès immédiat qu'il a connu. Donc raconte-nous comment ça se passe, la recherche du lieu, qui est certainement le déclic qui fait que ça y est, le projet devient concret.
Ouais, première étape, c'est la recherche du lieu. On voulait vraiment dans des quartiers, nous, qui soient populaires et qui brassent du monde midi et soir.
Donc les quartiers cibles, c'est quoi Paris pour ça?
Pour nous, c'était rue Saint-Denis, Pigalle, après Canal Saint-Martin. Enfin, c'est tout là où on est aujourd'hui.
Vous êtes fort. Vous avez eu votre target.
Ouais, c'est ça.
Et comment vous y prenez avec Billy pour trouver les locaux?
Alors, c'est
agent immobilier, recherche directe, persévérance, combien de temps ça a pris?
Ouais, c'est exactement ça. Agent immo, le bon coin. On se balade dans les quartiers cibles et on regarde ce qu'il y a à vendre. On va même voir les restaurants voisins en demandant est-ce que vous vendez. Enfin, quand on cherche un local,
quand on y va comme ça, tout le monde est vendeur. Hein, ça dépend du prix.
Ouais, c'est ça.
Et les agents immobiliers croient au projet et vous trouvent des locaux adaptés ou? Vous regardez un peu avec condescendance et sans vraiment comprendre.
Ces petits jeunes qui connaissent rien.
Non, les agents immobiliers ont été assez, ont vachement bien accueilli le projet.
Ouais.
En vrai, nous, les gros stops, ça a été les banques au début. Mmh. Mais sinon, les agents immobiliers hyper aidants là-dessus. Et au final, en fait, comme notre cible de quartier était déjà bien faite, finalement, en 3 semaines, on nous avait présenté. Plusieurs locaux qui étaient intéressants et on avait choisi de partir sur le local actuel de Petit Bao, rue Saint-Denis.
Vous avez trouvé en 3 semaines?
Oui.
Parce que j'ai souvent interrogé des entrepreneurs qui me racontent qu'ils ont mis 1 an pour trouver la pépite.
C'est un record.
Là. Donc ça, quand ça va vite avec vous, dès l'avant-projet, d'accord?
Oui, oui,
ça ne posait pas trop de questions. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce local rue Saint-Denis?
Alors la rue Saint-Denis, géniale, à l'époque, elle était vraiment montante. Il y avait un street Bangkok à côté. C'est vraiment une rue bien animée.
Hyper centrale, quartier
hyper
piéton,
centrale.
Quartier Montorgueil, quartier de bouche historique.
C'est génial.
Top. Très bonne adresse.
Et en fait, petite histoire, c'est que c'est un ancien traiteur asiatique.
Ah.
En fait, on reprenait un traiteur asiatique et nous, ce qu'on voulait, c'était redorer l'image de la cuisine chinoise. Et je me suis dit, mais il y a rien de plus parfait, en fait, que de reprendre un traiteur asiatique.
Là, vous rachetez le bail, pas le fond.
Le fond de commerce.
Le fond quand même.
Ouais.
Du coup, il a sa clientèle, mais après, vous n'allez pas l'avoir la même.
Voilà, exactement.
Ouais.
Okay. Exactement.
Donc, la banque valide facilement celui-là. Est-ce qu'elle vient le voir avec vous?
Ouais, la banque, finalement, après les nombreuses aventures, les derniers, en tout cas, qui nous suivaient, j'ai montré le local à tout le monde.
Il valide. Il valide l'emplacement, il y a du flux, c'est le bon quartier, donc ça déroule.
Exactement.
Les travaux, tout ça. Enfin, raconte-nous après les grandes étapes de la concrétisation du projet Petit Bao.
Alors, en même temps que du coup, on cherchait le local, on a fait appel à on cherchait un architecte d'intérieur. Et en fait, ça, c'était une approche pour les restaurants chinois qui était assez nouvelle. Nous, on voulait vraiment donner une teinte beaucoup plus moderne et design, en fait, à notre cuisine. Et du coup, l'architecte d'intérieur était vraiment indispensable. Et on est parti, après en avoir vu plusieurs, on est parti sur Murmure.
Ouais, d'accord.
Ce que j'aimais beaucoup avec eux, c'est leur approche très parisienne et aussi leur travail autour des matières et des formes que je trouvais très modernes. Et en fait, j'aurais dit, moi, je veux un local qui soit un espace-temps entre Paris et Shanghai. Mmh. C'est-à-dire que je veux qu'on ramène des codes de Shanghai, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est en Chine. Par contre, on sait aussi qu'on est à Paris.
Ouais.
Et c'était vraiment ça mon brief. Je voulais aussi introduire de l'art dans le restaurant, parce que pour moi, c'est très important de mettre à disposition aussi au grand public l'art. Donc, on avait fait appel à un artiste aussi pour le projet. Et là, première catastrophe. Ça va pas du tout avec l'artiste qui nous ruine complètement le carrelage. Et ça m'a rendu folle. Ça m'a vraiment rendu folle pendant cette ouverture. Et j'ai accepté finalement qu'on ne pouvait pas tout contrôler. Ça se passe jamais
comme on
veut. Exactement. Ça a été une première grande leçon. Et on a aussi perdu de l'argent. avec la construction de Petit Bao, perdu de l'argent avec cet artiste qui était pas fiable du tout. Également, on avait un bureau au-dessus de Petit Bao, enfin un appartement qui était avec le fonds de commerce, et nous on voulait en faire un autre bureau. Mmh. Et l'entrepreneur auquel on a fait appel pour refaire les travaux du bureau a eu des problèmes financiers et est parti en Espagne avec notre premier à-compte.
Ah, donc il y a quand même eu de la casse, parce que je me dis ça allait tellement vite, mais ils ont eu énormément de chance, ils ont eu aucune merde et tout. Non, finalement vous avez quand même eu des quoi, comme tout le monde, parce que tu l'as tu l'as rappelé, ça se passe jamais comme on veut, surtout quand on entreprend, surtout qu'on s'en rend pas compte, mais il y a plein de sous-projets. Il y a sa plante, mais vous rebondissez à chaque fois.
Ah oui, on rebondit, on perd de l'argent, et en fait, on se rend compte, et c'est la première fois qu'on faisait un projet d'envergure, que le projet architectural qu'on avait budgété dépassait de 100 000 euros ce qu'on avait en enveloppe budgétaire. Et en fait, après avoir fait un premier prêt bancaire, je suis allée retourner les voir en leur disant en fait,
il manque 100 000.
Il manque un peu d'argent.
Elle a mis une rallonge à ce moment-là.
Elle a mis une petite rallonge.
Bah, 200 000. Ouais, c'est une belle vraiment frère.
Et mis à part le problème du carrelage, comment se passent les travaux? Est-ce que vous finissez à temps?
Finalement, le projet dure à peu près 8 mois. On voulait ouvrir plutôt à l'automne.
8 mois de travaux?
Ouais.
Ah oui, c'est quand même assez compliqué.
C'est pas mal,
quand même,
c'est pas mal. Ouais, pour le coup, là, ça prend un peu plus de temps.
Ouais. Non, ça prend du temps. C'est la première fois qu'on faisait vraiment des travaux. Je pense qu'à la base, on voulait ouvrir fin d'année 2018. Et on a ouvert en janvier 2019.
Ouais. Ok. Parle-nous du lieu pour les auditeurs, les rares auditeurs qui ne sont pas allés chez Petit Bao. À quoi ça ressemble, Petit Bao?
Alors, Petit Bao, c'est ce qu'on appelle notre boui-boui chinois. du coup, c'est le lieu qui est entre le restaurant et le restaurant de rue, qu'on a modernisé, avec du carrelage blanc qui est en fait iconique des cantines chinoises, et des murs bruts qui sont iconiques des restaurants parisiens. Et donc, il y a un comptoir au milieu du restaurant. Et en fait, on voulait vraiment que le comptoir soit visible et qu'on puisse s'installer au comptoir, parce qu'on voit directement les maîtres Bao, ouais, plier les Bao à la main.
Cuisine ouverte.
Cuisine ouverte, totalement ouverte au milieu du restaurant.
Combien de couverts à peu près? Tu l'as dit, je crois, tout à l'heure.
50 couverts.
50 couverts.
Ouais. Et là, c'est Billy qui prend le lead sur tout l'aménagement de la cuisine, de par ses connaissances en restauration, très opérationnelle.
Complètement. En fait, les recettes, c'est déjà faites. Du coup, lui, il a vraiment mis en place les process pour qu'on puisse faire des mises en place efficaces, rapides. Il aménage également les cuisines. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'ouverture, moi, j'étais en cuisine. J'ai passé un mois, en fait, en cuisine.
Ah ouais. D'accord. Ah ouais.
Tous les services midi et soir. Je contrôlais vraiment la qualité de ce qui sortait.
Chef, donc tu supervisais.
J'avais pas de chef. En fait, dans l'histoire de Bao, on n'a jamais eu de chef exé.
Pourquoi?
Jusqu'à aujourd'hui.
Je pense qu'il y a une raison, vas-y, je t'ai déjà entendu. Ouais. Vas-y.
Bah, en fait, pour nous, on n'a jamais voulu être dépendant, ouais, d'un chef. Et que la qualité de la cuisine qu'on propose, on veut qu'elle soit la même, toujours, tout le temps. Et du coup, c'était important pour nous de maîtriser les recettes et qu'on puisse former, en fait, des personnes, plutôt qu'on soit dépendant de quelqu'un. Et que si jamais cette personne part, parce que ça arrive très souvent, ouais, aussi, que les chefs décide de changer de carrière.
Ça, c'est un point hyper important. Vous voulez vraiment maîtriser le savoir-faire et que ce soit vous qui ayez la main dessus.
Ce c'est primordial.
C'est un bon réflexe.
Exactement. Et du coup, Billy, lui, était en salle pendant un mois et moi, j'étais en cuisine pendant un mois.
Ouais. On a une première surprise, une petite question audio de quelqu'un que tu connais, qui ne se présente pas. Je pense que tu vas la reconnaître. Sinon, on va t'aider, mais je pense que tu vas la reconnaître.
Ma très chère Céline, tu sais que je te considère comme une sœur et tu m'épates tous les jours. Et en ce sens, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu fais pour concilier créativité et business? Je trouve que c'est un de tes grands, grands talents.
Est-ce que tu l'as reconnue? Je crois que oui.
Ah oui, c'est Alice Tuett, ma meilleure amie.
Tu la présentes en deux mots d'ailleurs, j'aime bien que ce soit toi qui la présente.
Oui, donc Alice Tuett qui a fondé le groupe Démant Collective avec deux restaurants aujourd'hui, enfin même trois, Plan D et Faubourg Démant, cuisine végétale et mais ultra cochonne, bonne.
Et également fondatrice de l'excellent podcast Patate. Alors, comment tu fais pour concilier créativité et business?
Alors, c'est pour moi, c'est un vrai cheval de bataille. Encore aujourd'hui, c'est un sujet qui me travaille au quotidien, parce qu'on a fondé Bao en essayant d'apporter énormément de créativité dans tout ce qu'on fait, à travers notre cuisine, nos recettes, la manière dont on présente les plats, les lieux, la politique RH, notre communication, notre branding. En fait, on a essayé d'être créatif partout, et en fait, c'est un peu la créativité qui drivait finalement ce qu'on offrait en expérience à nos clients et aux Parisiens. Et du coup, le gros challenge, en fait, c'est d'être créatif, mais de parler, en fait, aux gens, de toucher les gens, de les embarquer avec nous dans ce projet créatif. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est toujours prendre notre ADN créatif, mais pas l'adapter, mais le rendre, en fait, lisible et compréhensible par tous.
Ouais.
Et du coup, quand c'est compréhensible par tous, finalement, on arrive à toucher une large population.
Toucher du monde et du coup, exactement, à transformer en business, en succès.
Et à transformer en succès, c'est exactement ça. Et je pense qu'on a aussi une démarche très authentique et très vraie, en fait, dans qui on était, ce qu'on voulait partager aux gens.
Ça se sent, on l'entend là depuis tout à l'heure. Ouais.
Ouais. Et je crois que les gens l'ont vécu, en fait, le vivent dans nos restaurants, le vivent avec la manière dont ils sont accueillis par notre équipe.
Parle-nous, tu as commencé à le dire, mais justement, des profils des gens que vous recrutez au début pour vous entourer. Donc, en cuisine, en salle. Comment vous recrutez d'ailleurs ?
Alors, c'est important pour nous de recruter, en tout cas en salle, des personnes d'origine asiatique. Mmh. On a un peu créé ce que j'appelle le boys band chinois. Et en fait, on venait...
Que des mecs ?
Non, avec des
femmes. Ah ouais, d'accord.
Les deux.
C'est très littéral dans la traduction, moi. D'accord.
Ouais, les deux.
La team, ok.
Exactement. Mais en fait, parce qu'à l'époque, en vrai, on voyait rien. Sur la Chine, en tout cas, rien n'était cool. Enfin, en tout cas, en termes d'image, même dans la culture. C'était plutôt kitsch et cheesy. Enfin, en tout cas... Et en fait, moi, l'idée, c'est que je voulais rendre tout ça vraiment dans l'air du
cool,
temps.
Ouais, voilà.
Cool, et l'inscrire dans l'air du temps. Et ça passe aussi par les personnalités.
Évidemment, l'humain. Mmh.
Exactement. Et donc, on a toujours voulu recruter des personnalités qui incarnaient ça en eux. Et du coup, on a recruté les premières personnes, d'ailleurs, qui sont toujours là aujourd'hui.
Ouais,
donc, Tavine,
bon,
Yana et Van.
On les salue.
Ce qui est assez rare, parce qu'on dit aussi souvent en restauration que les premiers recrutements sont ceux qui vont un peu essuyer les plâtres et qui restent pas forcément pour le reste de l'aventure, donc c'est assez fou que vous ayez réussi à les garder, à les embarquer sur toute la suite du projet.
Ouais, c'est vraiment une belle histoire. Enfin, en fait, je pense que comme la mission de la marque leur parlait aussi au début, on redore l'image de la cuisine chinoise, mais au-delà, on a un vrai stand sur notre culture.
Ouais, ça,
exactement.
Ouais.
Eux, ils font partie de ce mouvement-là, et donc ils sont très très fiers de le porter, de l'incarner au quotidien. Et aujourd'hui, on les fait grandir énormément. Ils étaient serveurs, aujourd'hui ils sont managers de restaurant. C'est exceptionnel. Et après, en cuisine, pour le coup, on a, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas de chef, mais par contre, on avait des maîtres bao, donc des experts dans le pliage des bao et le savoir-faire des bao, et on avait des commis de cuisine sur tous les autres plats et on les formait à nos recettes.
Comment vous organisez au début ? Est-ce que tout est déjà ultra processisé comme ça peut l'être un peu plus aujourd'hui, ou est-ce que c'est plutôt à tâtons et vous avancez au fil de l'eau ?
Non, c'est plutôt à tâtons. En vrai, les trois premiers mois, on courait après la production. C'est-à-dire que, en fait, comme on n'avait pas imaginé qu'on allait avoir autant de clients, on était toujours en rupture de bao, toujours en rupture de plat, et en fait, on courait avec la production des plats. On a commencé avec une équipe de 9 personnes. En fait, on est passé à 26 dans le restaurant au bout de 2 mois.
Ah ouais, donc, ça donne une idée du succès.
Et vous étiez ouvert 7 jours sur 7?
Et on était ouvert 7 jours sur 7.
Midi et soir.
Midi et soir, exactement. Et du coup, en fait, à la fois, on courait auprès de la production, on recrutait des gens parce qu'il fallait qu'on forme d'autres personnes à en faire. Et en fait, tout ce moment-là, les trois premiers mois, il n'y avait pas forcément de vrai process établi parce qu'on était, il fallait juste qu'on puisse servir assez, quoi. Et par contre, au bout de 3 mois, on a recruté un directeur de restaurant, donc qui est Van, qui était au Shang Palace avant.
Ah.
Qui était client chez nous.
Wow.
Et on l'a débauché. et en fait, Van, on lui a dit, OK, on te donne les clés du restaurant. Ouais. C'est ton resto maintenant. Et en fait, lui a commencé à mettre tous les process en salle sur la gestion des plannings. Enfin, il a vraiment géré ça. Et ensuite, du coup, ça nous a permis, avec Billy, de mettre en place aussi les process cuisine, charte de production, charte de commande, achat. Et du coup, en fait, ça s'est mis en place petit à petit.
De structurer, de rendre l'organisation efficace, ça, on va y revenir. Parlons un peu de la carte, on va évidemment évoquer déjà un petit peu. Quels sont les plats signatures dès le début? Donc les bao, je ne me risque pas dans la prononciation, le xiaolong bao.
Oui.
Mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter en deux mots la carte, les pépites, les aubergines? Moi, je me souviens des aubergines,
ouais,
par exemple.
Oui, c'est ça.
Elles étaient déjà là au début?
Oui, oui, oui.
Alors, parle-nous de la carte, fais-nous saliver.
En fait, c'est assez fou parce que les plats qu'on a sortis à petit bao à l'ouverture, alors que je pense que depuis, on a sorti 80 recettes. Mmh. C'est toujours les best-sellers.
C'est fou, ça. Mais d'où vient cette intuition, ce génie?
C'est incroyable. Et du coup, nos best-sellers aujourd'hui, c'est le xiaolong bao, C'est la brioche au porc. C'est les aubergines ronchard.
C'est celui où il y a le bouillon, hein, celui-là.
Alors, le chalon pao, c'est celui où il y a le bouillon. Voilà. Et le pao tse au porc, c'est de la brioche. Mmh. Avec une farce de porc, ciboulot, gingembre à l'intérieur. Et ensuite, dans les autres plats qu'on avait, les aubergines ronchard.
Ça, faut que t'en parles. Hyper fondante.
Hyper fondante, ouais, c'est ça. C'est des aubergines chinoises qui sont violettes, qui sont marinées dans deux sauces soja et qui sont en fait passées à la friteuse pour donner le côté fondant à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Et ensuite, on les repasse au wok.
Et ça, c'est une recette qui vient d'où? Alors, c'est un plat, quel twist vous lui donnez pour qu'elle ait ce goût assez unique et ce succès?
Alors du coup, ça c'est une recette que j'avais appris justement pendant mes cours de cuisine à Shanghai. Ouais. Et en fait, je pense que moi, mon truc, c'est que je prends la recette traditionnelle chinoise et je vais twister un tout petit peu genre le dosage de certains ingrédients pour le rendre beaucoup plus addictif. En fait, moi, quand je parle d'addiction, et ça je le fais sur tous les plats, c'est qu'en fait je veux qu'il y ait ce goût de reviens-y. Ouais. C'est-à-dire que, et moi, pour savoir si une recette est bonne, parce que je teste toutes les recettes, c'est est-ce que j'ai envie de prendre une bouchée, deux bouchées, trois bouchées, quatre bouchées,
de finir le plat.
De finir le plat, exactement. Et c'est là où je sais
hein.
que...
Ouais, ça, on l'a compris. D'accord. Ah ouais.
Parlons un peu du sourcing. Vous aviez notamment dans votre plan de com toute une phrase et toute une idée autour du no dogs, no cats, no rats, just Chinese food, donc qui est basé un peu sur le cliché ou le stéréotype que les gens peuvent avoir d'un sourcing de mauvaise qualité sur les restaurants chinois. Vous, comment vous avez donc pris, vous êtes appuyé là-dessus pour justement parler de la qualité de vos produits? Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça?
On parlera de la com après, parce que ça c'est génial la com, ouais. Mais vas-y, le sourcing.
Exactement, bah du coup dans cette idée-là de redorer, en fait, comme on s'est dit, on veut redorer l'image de la cuisine chinoise, il fallait qu'on le prenne sur toutes les verticales, sur les gens qu'on allait recruter, sur la cuisine, sur les produits, le sourcing, la manière de faire, et en fait tout, on a déconstruit en fait ce qui se faisait, et du coup au niveau du sourcing, clairement on avait un cliché de on sait pas ce qu'on mange. Il y a vraiment un doute autour de ça, et donc on s'est dit bah en fait il faut qu'on soit hyper transparent sur la provenance de nos produits, et donc on allait chercher pour Neobao une farine bio en Île-de-France. On avait visité plusieurs boulangers, et du coup là on travaille avec les moulins bourgeois, et d'ailleurs la recette de bao finale on l'a peaufinée avec eux parce qu'ils ont un atelier de boulangerie à côté de leur moulin, et on avait passé une journée avec eux pour essayer toutes leurs farines, avec des taux d'humidité et d'eau différents en fonction de chaque farine, et avec eux on avait trouvé la recette parfaite. Donc en tout cas, chercher le bon produit et être accompagné avec les bonnes personnes, ça nous a vraiment aidé. Et après, au-delà de ça, toutes les viandes du coup sont françaises. Porc fermier, poulet du Périgord, enfin c'était hyper important pour nous de toujours se sourcer en France dans de bonnes conditions. Et après les légumes, c'est bio quand on peut, mais on peut pas le faire tout le temps parce que on est aussi une cuisine chinoise et que sur des produits asiatiques, c'est pas toujours évident.
Ouais, ouais. Là, on retrouve l'une des trois valeurs dont tu parlais tout à l'heure, le travail. On sent que rien n'est laissé au hasard, tout est poussé au bout, enfin le lieu, le sourcing. Parlons aussi de la com, parce que pareil, ça c'est un sujet que t'as pas improvisé. Comment t'as organisé la com, avec notamment la phrase que rappelait Elisa tout à l'heure, comment tu gères la com au début, avec certainement pas trop de moyens, de budget, est-ce que t'étais aidé par une agence, quels sont les leviers que t'as utilisés pour faire émerger et peut-être expliquer que dès l'ouverture, il y avait la queue.
J'ai oui, ouais. Alors en vrai, j'avais zéro budget com.
Ouais.
Et du coup, on n'a pas du tout fait appel à une agence ni de com ni de RP.
Donc pas du tout à l'agence presse, d'accord, pour l'ouverture.
Non, pas pour Petit Bao. On l'a fait après pour Gros Bao.
Donc ce monde, c'est que qu'on a eu à l'ouverture de Petit Bao, ça vient uniquement du bouche à oreille des actions que tu vas nous expliquer.
Okay. Exactement, c'est ça. Et donc en gros, cette phrase de com, je pense que c'est vraiment ce qui nous a fait décoller.
Donc on la rappelle.
Oui, c'est no dogs, no cats, no rats, just Chinese food. Ça c'est
le contre-pied.
C'est ouais. Exactement. Bah, c'était vraiment notre. En fait, on explique clairement qui on est avec cette phrase-là, qui est hyper catchy.
Ça fait buzzer, voilà. Ça laisse pas indifférent. Et en même temps, ça dit des choses.
Exactement. Et on voulait aussi avoir une touche d'humour, tu vois.
Et voilà, ça donne aussi une ambiance. Voilà, cool, second degré.
Exactement. Et donc, cette phrase-là, je l'avais eue. Tu vois, je marchais et elle est arrivée.
Pareil, une évidence.
Une évidence, exactement.
C'est une bonne étoile.
Exactement. Vous avez quand même travaillé avec une agence de branding sur votre logo, tout le design, en partenariat un peu, en collaboration avec Murmure?
Alors,
ou vraiment séparément?
Alors, en fait, on a fait appel à une agence. Alors, en tout cas, pour les trois premiers mois et pour l'ouverture de Petit Bao, j'avais pas les moyens et du coup, j'avais fait appel à un ami graphiste.
D'accord.
Qui lui avait fait, du coup, ces affiches-là. On voit les panneaux stop avec des chiens, chiens, rats et chats. Et il nous avait fait, on avait aussi fait un tuto pour manger des xiaolongbao avec un personnage qu'on avait appelé le petit gros.
Ah oui.
Qui, en fait, voilà, un tuto très marrant pour apprendre aux gens à manger des xiaolongbao et tous les don'ts, tout ce qui, toutes les erreurs à éviter.
Sans en mettre partout quand le bouillon. Exactement. Ça, c'est un vrai sujet.
Exactement. Et en fait, lui, il nous avait fait le logo, ce tuto et les affiches. Et en fait, au bout de trois mois, en fait, il était plus câblé pour ce qu'on voulait faire. Et on a fait appel à une agence qui s'appelle Chocle Goff, qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui pour redéfinir l'identité graphique. Pour le coup, beaucoup plus impactante, très forte en couleurs, très pop. Ouais. Et ça a été dingue. Mais au début, en tout cas, juste, je pense que c'est vraiment cette phrase-là, No Dogs, No Cats, No Rats, qui a fait tout changer. Et ensuite, j'avais fait une campagne de crowdfunding sur Ulule. D'ailleurs, j'avais gagné à ce moment-là le concours du meilleur pitch sur les projets food.
D'accord.
Donc c'est
de Ulule.
De Ulule.
Et donc ils m'ont mis en avant.
Ils m'ont mis en avant. Je crois que j'avais même gagné un tout petit budget. Et en fait, cette campagne Ulule nous a permis de créer notre première communauté.
Ouais, ça, c'est hyper important.
Exactement.
Souvent, c'est ça le plus important.
Le but était,
c'est de créer une communauté plus que les montants que tu as dû récolter, je crois, 8000 euros sur les 500, 600 000.
C'est exactement ça. Et du coup, cette communauté-là, c'était notre première communauté à nous suivre sur Instagram. C'était la première communauté à être là
pendant l'ouverture.
Exactement. Voilà, on vraiment contribué au début de l'aventure. Et en fait, cette communauté-là a fait accroître le bouche à oreille. Et du coup, bouche à oreille. Au bout d'une semaine, en fait, on avait la queue. Mais aussi parce que, je pense qu'on a intrigué.
Curiosité, ouais, voilà.
Curiosité. Tous les foodies sont venus. Beaucoup d'influenceurs sont venus alors que je les avais pas forcément contactés. La presse est également venue. En fait, ils sont venus d'eux-mêmes. Et c'est ça, en fait, qui a après fait déclencher, finalement, qui a fait effet boule de neige.
Ouais.
C'est tous nos prescripteurs. À la fois clients, plus influence, plus presse, qui ont fait monter la sauce.
Tu nous as raconté un petit peu les débuts et le monde qui était beaucoup plus important que prévu. Vous avez dû recruter. Est-ce qu'il y a eu des ratés ou des choses que vous avez dû ajuster rapidement pendant les premiers mois d'ouverture de Petit Bao?
Oui, en vrai, sur les Bao, ça a été très difficile à nous de gérer la production et les volumes. Le week-end avec Billy, on venait pour nous-mêmes faire des Bao, sachant que nous, on fait un Bao par minute.
Oui, c'est ça. Ouais, ça me rappelle des bons souvenirs.
C'est pas les plus efficaces.
Enfin, clairement pas. Et on passait, Billy et moi, notre temps à faire des Bao, quoi. Enfin, c'était très drôle. Du coup, non, tu vois, ce temps-là d'ajustement pour trouver le bon rythme de croisière avec la croissance qui augmente, ça a été, je pense, le plus tricky. Ensuite, on a recruté les bonnes personnes, on a fait monter en compétence des maîtres Bao qui devaient former ensuite les personnes d'en dessous. Mais c'est une compétence qui est tellement difficile que ça nous a fallu pas mal de mouvements, quoi, dans les équipes. Et du coup, maintenir le même niveau de qualité avec ces rotations et ces temps de formation, ça a été vraiment le moins évident. Mais en fait, on a tenu le rythme. Et en parallèle, on a quand même sorti des nouveautés. C'est-à-dire que je pense qu'on a été connus aussi très tôt la première année pour faire des collaborations assez étonnantes et qui aussi fait parler de nous, en fait.
Quel type de collaboration?
La première qu'on a faite, c'est avec Frenchy To Go, Grégory Marchand.
D'accord.
On avait sorti un gros bao au pulled pork.
Ah, ouais.
Et ça, c'était génial en tout cas à l'époque, pour un petit acteur comme nous, pouvoir s'associer à quelqu'un comme Grégory Marchand.
Voilà, ça crédibilise, ça nourrit évidemment la marque.
Comment ça s'était fait? T'étais allé lui proposer l'idée?
Alors,
vous n'êtes pas loin, hein. C'est dans le deuxième, quartier Montorgueil, lui, les rues du Nil.
Exactement, les rues du Nil.
On le salue d'ailleurs.
Exactement. En fait, non, mais ils étaient clients du restaurant.
Voilà.
Ce qui est génial, c'est que même dans nos premiers clients, on avait aussi beaucoup de chefs. Donc la communauté foodies, tous les chefs. Et du coup, en fait, on communiquait avec ces chefs-là. Et avec Grégory, je crois que très naturellement, dans les conversations, on s'est dit, ce serait trop bien de faire un bao ensemble.
C'est une belle matière, le bao, c'est clair. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
Très déclinable.
Ouais, voilà.
Voilà,
c'est bon et c'est un joli sujet business. Hein. On en parle facilement ici.
C'est ça.
Donc exactement. Des collabs. Donc ça a marché tout de suite. Quel est le profil des premiers clients? Quel est leur profil? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que des Chinois? Est-ce qu'il y a la communauté? Est-ce que t'as rapidement la reconnaissance de la communauté chinoise? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais d'ailleurs ou pas du tout? Pas forcément ta cible, je crois, mais je sais pas.
Alors, je pense que moi c'est mon rêve de les avoir chez nous. On forcément les visait et je pense que finalement les gens qu'on vit c'est des gens qui sont enfin qui ont un peu le même profil que moi. C'est-à-dire que les clients asiatiques de nos restaurants, c'est des personnes en fait de deuxième ou troisième génération qui ont fait des études, qui ont voyagé et du coup qui sont sensibles au type d'expérience que nous on offre. On a parfois des Chinois de première de deuxième génération ou plus âgés qui ont l'âge de mes parents. Eux ils viennent, mais eux ont un sujet prix. Ils sont très sensibles au prix. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tout ne soit pas cher.
Donc là, c'est perçu trop cher.
C'est perçu comme trop cher.
Ils sont plus dans le restaurant traditionnel chinois qu'on va trouver à côté, mais on n'a pas la même qualité.
Exactement. Et du coup, la population qu'on va avoir, ça va vraiment être du coup plutôt les jeunes, on va dire les jeunes chinois. Et après, la population classique de 25 à 45 ans, parisienne, urbaine, qui aime, en fait, qui va souvent au restaurant, qui est curieuse, qui voyage, qui aiment la culture, l'art. Enfin, c'est vraiment ce type de population cœur qu'on a.
Est-ce que vous avez des retombées presse au début, un article plus influent qu'un autre, par exemple, qui vous a fait connaître? Est-ce que au contraire, vous avez aussi une critique assez négative? Comment vous avez rebondi par rapport à ça?
On a eu un premier article sur le fooding, ça a été une vraie réussite quand même pour Petit Bao. C'était fou quand on l'a eu, on était vraiment trop content.
Ouais. Au bout de combien de temps?
Je pense au bout de 4 mois.
Ah ouais, ça va vite.
Au bout de 4 mois. Et après, on a été plutôt... On a pas mal de publications sur des médias lifestyle. Pas de souvenirs de grosses critiques à ce moment-là. Les critiques, je pense, venaient vraiment plus de la population en vrai asiatique qui, justement, ne comprenait... Enfin, qui trouvait que le rapport qualité de prix n'était pas juste pour eux, mais c'était plus par rapport à leur histoire et leur habitude.
Ouais. A posteriori, comment t'analyses ce succès aussi rapide? Est-ce que c'est l'originalité de l'offre? Est-ce que c'est la qualité de l'offre? La communauté? L'emplacement? D'autres...
Oui, je pense que c'est une
combinaison. Ça allait très très vite, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas la norme. Hein, donc, comment on t'explique ça?
Ouais, je pense que c'est un peu la combinaison de plusieurs facteurs, de plusieurs étoiles qui s'alignent. Je pense que c'est le bon emplacement.
Ouais.
Je pense qu'on est arrivé au bon moment aussi sur le marché parisien. On était les premiers sur le marché chinois. C'est toujours, pour moi, je trouve que c'est un avantage, en fait, d'être...
La qualité à ce prix avec ce positionnement.
Avec ce positionnement dans des lieux comme ça. On était les premiers, je pense que c'était un avantage. Je pense que tout était cohérent. Entre l'image qu'on mettait sur Instagram, l'expérience que les gens...
C'est hyper important. Et là, tu reprends une phrase de Guy Savoie qu'on a reçue chez nous, qui insiste sur ce point en disant un restaurant doit être cohérent, tout doit être cohérent.
Exactement. Là, ouais. Tout est cohérent. Et en fait, tu parlais tout à l'heure en fait de l'importance des détails. Moi, j'avoue, les gens disent que je suis une psychopathe du détail, mais parce que je...
On est en train de découvrir.
De la guerre en restauration.
En restauration.
Rien n'est laissé au hasard.
Exactement.
Tous les maillons de la chaîne du restaurant, la salle, la cuisine, la communication, le sourcing.
Exactement. Et je pense que c'est ça, cette cohérence, cette justesse et cette authenticité aussi par rapport à ce qu'on promet. Et c'est ce qui vit vraiment. Il y a une vraie justesse de ça. Je pense que c'est ça qui fait que ça marche.
Parce que vous l'avez fait aussi vraiment sans donner de leçons. C'est ça qui est aussi super, c'est que vous avez proposé une offre très qualitative, mais sans dire que vous étiez meilleur que les autres. Donc ça, c'est cette humilité aussi, elle a dû beaucoup plaire.
Oui, et je pense qu'en fait, en effet... Ça, je pense que ça vient de la culture, l'humilité, je pense que Billy et moi, on partage cela. Et même si on fait des choses grandes, on a des grands rêves, on peut paraître fou, je pense qu'on a quand même une certaine idée de la réalité.
Ouais, les pieds sur terre.
Les pieds sur terre, mais c'est aussi parce que on sait d'où viennent nos parents. Et qu'en fait, on arrivait là, mais parce qu'on a dû travailler, en fait.
Tu les as vu travailler et toutes les générations avant vous.
Ouais. Tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, vous explosez du coup les prévisions du business plan. Est-ce que tu peux nous raconter ça en quelques chiffres, le chiffre d'affaires journalier par exemple, le prévisionnel par rapport au réel?
Alors, en fait, moi, il y a un moment qui m'a marqué, c'est quand, en fait, on avait fait le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année, on l'avait fait en 6 mois.
Ouais, wow. Deux fois plus vite.
Deux fois plus vite. Et en fait, je me sens, j'avais dit à Billy, c'est bon. En 6 mois, c'est fini.
C'est les 800 000 dont tu parlais, c'est ça?
Exactement.
Tout à l'heure, les 800 000, vous l'avez fait en 6 mois. Ouais, et la première année de Petit Bao, ça fait quoi comme chiffre d'affaires? 1,6 million?
Ou c'est, oui, c'est ça.
Ça continue? Ouais, d'accord.
Non, c'est ça, on a fait 1,6 million.
1,6 million sur un restaurant de 50 couverts.
C'est fou.
La première année, ouais, c'est en effet un joli cas d'école.
Et donc vous faisiez deux services, en gros à midi, deux services le soir, vous étiez ouvert en continu
ou... On faisait plutôt, enfin nous dans nos modèles, on est plutôt 1,5 service ouais, le ça. Midi et plutôt 2,5 services, 3 services le soir.
Ah oui, ok.
Ouais. Et après tu vois, on s'est adapté, c'est-à-dire que avant le week-end on était ouvert que le midi et le soir, après on a été ouvert en continu parce qu'on sentait qu'il y avait du potentiel, du flux tout au long de la journée et donc on a ouvert après en continu.
Et ça vous donne des moyens, ce qui fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, dès 3 mois, vous embauchez un directeur de restaurant, ce qui vous permet aussi de prendre un peu de hauteur et de vous concentrer sur les développements qui faisaient partie de la stratégie, l'ouverture des autres restaurants, on y viendra. On a une deuxième surprise pour toi, la question de quelqu'un que tu vas forcément reconnaître.
Bonjour Céline, ma question est la suivante. De Bao à Tao, il n'y a qu'une lettre. Penses-tu que cela soit une coïncidence ? Alors, la question peut paraître un peu perchée, mais mon intention ici, c'est de guider ton propos dans ce podcast hors des sentiers proprement business, ou plutôt de te permettre de dévoiler, si c'est pas déjà fait à ce stade de la conversation, une autre facette qui me semble très importante de ton intériorité. Et puis, il me semble quand même que l'évolution du rapport entre ton yin et ton yang ces dernières années a un impact important sur ta manière d'envisager ton travail.
Là, vous me voyez hyper émue. Donc, c'est Jessica Trois-Fontaines, qui est aussi l'une de mes très, très, très bonnes amies et qui a le don d'utiliser toujours les très, très bons mots qui touchent directement l'âme. Et donc, elle a vu très juste.
Juste un mot sur Jessica pour nos auditeurs. Tu peux la présenter?
Oui. Ouais. Alors, Jessica est la fondatrice de la marque Septem. Ouais. Et aujourd'hui, elle fait un grand revirement avec courage dans le milieu de la food. Mmh. Et elle a le podcast à l'époque était Septem Club. Ouais. Aujourd'hui, ça s'appelle Ressentir.
Donc, on l'encourage dans cette très belle démarche d'ailleurs.
Exactement.
Et elle est très bonne pour poser des questions, la preuve. Ton émotion exactement. Et cette question, alors très, plus personnelle, mais je trouvais que c'était le bon moment.
Complètement. Alors, c'est assez drôle parce que, en effet, Bao et Tao, il n'y a qu'une lettre de différence.
Mais oui, c'est fou, ça.
C'est fou. Ma découverte du Tao est venue après Bao.
D'accord.
Bao puis Tao.
Bao puis Tao, exactement. C'est qu'en fait, après avoir ouvert gros Bao, pendant le Covid, comme tous, on a eu des gros moments où on était seul chez soi. Et en fait, ça a été un moment où j'ai énormément lu. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à la philosophie du Tao. Et en fait, j'ai commencé à écrire des poèmes à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que je ne savais pas que je savais écrire des poèmes. Et en fait, à force d'entraînement à écrire au quotidien, des poèmes me sont venus. Et en fait, j'ai compris que ces poèmes-là, c'était aussi... l'influence du Tao qui me les ont inspirés. Et en fait, finalement, j'ai une vision qui est très poétique de la vie. Et en fait, même cette poésie-là, on peut réussir à la sentir dans les lieux. Ouais. Et c'est-à-dire que, en fait, j'aime les choses simples. C'est ça que le Bao, la cuisine, les gens, les gestes de la main, enfin tout ça, c'est des choses simples, mais en fait, qui viennent profondément du cœur. Et en fait, dans la philosophie du Tao, c'est l'énergie du corps, en fait... se transmet à travers la main, et tu peux le voir avec la peinture chinoise. Beaucoup de choses, en fait, se passent à travers la main. Et c'est pour ça que moi, le Bao, dans ce geste artisanal qui vient profondément du cœur, et ben on transmet énormément de choses aux gens.
Et ce qui est intéressant, c'est que le Bao, c'est venu avant la redécouverte de toute cette philosophie. Mais on le découvre, hein, on le sait, t'es quelqu'un de très intuitif, t'as eu des bonnes intuitions, donc on se doute que tu t'es laissé porter, comme tu l'as dit, en disant tiens là j'ai une bonne intuition, on y va.
Oui, je suis très très intuitive. et parfois ça c'est génial, et parfois en fait ce qui est difficile pour les gens intuitifs, je trouve, c'est de savoir à quel moment est-ce que c'est de l'ordre de l'intuition et à quel moment c'est de l'ordre de... la raison ou la volonté, mais que t'as l'impression que c'est ton intuition et en fait pas forcément.
Et faire confiance à son intuition.
Faire confiance à son intuition. Pas évident. Exactement. Et ensuite surtout.
Surtout jeune. Ouais.
Complètement. Et convaincre tout le monde qu'il faut y aller.
Sur
parce
une intuition. Surtout on est dans un monde où on cherche du rationnel. Genre ton banquier, tu vas pas lui dire que oh, j'ai une bonne intuition là, j'ai une bonne vibration dans ce lieu, je pense que ça suffira pas. Mais c'est bien.
Exactement.
Parce que toi, ça, t'en es convaincu, ça te donne une énergie, le rationnel, tu le trouves après.
C'est exactement ça, complètement.
Alors parlons du prochain restaurant, bon, on l'a dit, ça va hyper vite. Quel est le plan? Parlons du projet, puis après on parlera de l'ouverture. Comment on se dessine? Et on a commencé à évoquer le point tout à l'heure. C'est vrai que la logique aurait voulu que la deuxième adresse soit une copie, que vous dupliquiez un modèle qui marche pour aller vers encore plus de succès, de business, de valeur. Pourquoi vous êtes parti dans une autre direction ?
Alors, je pense qu'on a toujours été porté par nos rêves. Et c'est ce qui finalement ont toujours drivé notre chemin. Et du coup, nous, on rêvait grand. Ouais. Petit Bao, c'était génial, on maîtrisait. Je pense que nous, avec Binou, on est tous les deux entrepreneurs qui aimons apprendre. Ce qui nous stimule, c'est vraiment apprendre au quotidien, sortir des sentiers battus, tester nos limites aussi, savoir quelle est notre limite. Et en fait, je pense qu'on avait besoin de tester nos limites. Et c'est pour ça qu'on allait sur un restaurant plus gros, avec une conviction que la grande cantine chinoise, en fait, ça allait aussi marcher qu'une petite cantine chinoise. Et on avait la conviction qu'on allait aussi réussir à remplir un beaucoup plus grand restaurant. Et donc, on y allait, alors que vraiment la plupart des gens nous disaient, en fait, de plutôt prendre moins de risques et de sécuriser le modèle qu'on avait déjà mis en place. Parce qu'en fait, réussir un modèle, c'était déjà un exploit.
Ouais.
Et finalement, on a suivi nos rêves.
Vous êtes joueurs.
On est joueurs.
C'est votre côté rebelle aussi.
C'est ça.
Qu'on voit depuis le début.
Exactement. Mais tu vois, on est parti sur Gros Bao, coup de cœur sur ce local, sur le canal Saint-Martin, vue incroyable sur le canal. Moi, je savais déjà ce qu'on pouvait en faire.
Donc, dès le début, vous vouliez un très grand lieu.
Exactement. Exactement. Et donc, on y allait, on est tombé sur cette opportunité, on l'a prise.
Qui fait 350 mètres carrés, donc c'est énorme.
Exactement, 350 mètres carrés, 120 couverts. Donc plus du double finalement
de
Petit Bao.
Petit Bao, quoi. Ouais. Ça, c'était le projet et le lieu que vous recherchez, c'était vraiment de chercher en effet une grande surface pour ce projet-là, une cantine. Ta vision, c'est ça. Enfin, votre vision, c'était d'ouvrir une cantine chinoise.
Grande cantine chinoise. Ouais.
Et quelle était la différence avec l'offre que vous aviez à Petit Bao?
Alors du coup, les classiques étaient toujours là. Les bao, les aubergines, le poulet sweet and sour qui est aussi un plat du début, qui est notre best-seller aujourd'hui.
Ah, on l'a pas cité tout à l'heure, celui-là, c'est vrai.
Ouais. Et après, autour de ça, on a joué avec les classiques d'autres régions de Chine, le mapo tofu, le canard pékinois. Et en fait, on a eu une orientation autour de la rôtisserie chez Gros Bao.
Ouais, mais malheureusement, dans le projet Gros Bao, il y a un gros grain de sable, c'est la pandémie, qui arrive à ce moment-là, elle va venir perturber sévèrement les plans. Alors je vous propose qu'on en parle dans le prochain épisode. Donc on parlera surtout des autres ouvertures qui ont suivi et surtout de l'organisation de ce qui est devenu aujourd'hui un groupe de restauration Bao Family. Allez, à très vite.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.